CGR, Christopher Gégès sur le chantier de la société Lefroy. Les membres du 18e gouvernement ont décidé d'aller sur le terrain. Le FLNKS prépare son congrès sans le Palika ni l'UPM. Il a invité des représentants des partis indépendantistes de Corse, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe et de Polynésie française. La préparation de la rentrée universitaire. Jusqu'à la semaine prochaine, près de 700 étudiants peuvent rencontrer les différents partenaires de la maison de l'étudiant pour faciliter leurs démarches administratives. Au Vanuatu, les premiers résultats des élections générales confirment le morcellement politique au Parlement. Aucune majorité ne se dégage. En métropole, le gouvernement réactive le comité interministériel de lutte contre l'immigration. C'est une demande du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et puis le sport avec cet exploit enfin du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens sont venus à bout de Manchester City, 4-2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Accompagner les chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs projets dans l'économie sociale et solidaire, notamment les femmes. C'est ce que propose la CCI dans son programme Femmes dirigeantes qu'elle vient de relancer. Nous en parlerons dans les Jeudis de l'économie dès la fin de cette émission. Nous serons pour ça en compagnie de Jessica Bouillet, qui est élue à la CCI, Christian Tillon, qui est chargé d'opérations et de conseils aux entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie, et Cathy Manet de la librairie Calédo Livre, sélectionnée pour ce parcours 2025. Rendez-vous donc dès la fin de ce journal. Le gouvernement est au travail depuis la répartition des secteurs et le montre. Plusieurs de ses membres étaient sur le terrain dès ce matin. C'est le cas du président Alcide Ponga qui s'est rendu au 6 Sud, le centre d'intervention et de soutien spécialisé de Nouméa, Léana Colombo.
Oui, effectivement, Alcide Ponga a rendu visite aux équipes de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Après avoir pris le temps de saluer l'ensemble des équipes, le président du gouvernement a tenu à remercier les personnels mobilisés sur les incendies survenus en ce début d'année, notamment au Mont d'Or.
Allocution du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bravo.
Merci à tous. Voilà, je vais commencer comme ça.
Je dis merci pour les différents corps de métier qui sont ici au service de la population et eux aussi, d'autant plus qu'eux se font aussi agresser. On a cette problématique-là et j'aurais dit merci parce qu'on a encore la chance d'avoir des gens, vous avez des professionnels, mais vous avez surtout des volontaires. Je devais rencontrer ces hommes et ces femmes aussi qui se mettent au service de la population parce que eux, comme les infirmiers, comme les docteurs, comme les policiers, comme les gardes champêtres dans les communes, ce sont des fonctions qui sont au service de la population.
Cette première visite de terrain d'Alcide Ponga marque un intérêt fort du nouveau gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les sapeurs-pompiers engagés sur le territoire. Un honneur pour le colonel Frédéric Marquilecha, le directeur de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en a profité pour rappeler au président que les effectifs sont insuffisants pour assurer la sécurité des Calédoniens.
C'est l'honneur qu'il nous fait de nous réserver sa première visite sur le terrain. Donc, c'est un signe fort qui est envoyé à la sécurité civile en général et aux pompiers en particulier qui, vous le savez, ont été mis à rude épreuve depuis le mois de mai, mais également sur les derniers feux du Mont d'Or. Donc sa présence parmi nous, dès ses premières journées sur le terrain, vraiment ça fait chaud au cœur, clairement. Aujourd'hui, il y avait un double effectif. Il y avait les pompiers du territoire donc, qui sont placés sous l'autorité du président. Donc c'est un effectif qu'on peut fixer à 60 à peu près, sachant qu'il y en a 40 au sud et une vingtaine au nord. Malgré tout, et j'ai attiré l'attention du président, ces effectifs sont encore insuffisants, notamment pour faire face à un gros coup, comme on dit chez nous, un cyclone, quelque chose qui mobiliserait beaucoup de ressources humaines. On n'a pas suffisamment d'effectifs. Mais bon, les temps font qu'il est difficile d'avoir de la ressource humaine. Donc on répondra toujours aux sollicitations de la population. Parfois, il faudra faire preuve d'un peu de patience, mais j'ai confiance sur mes effectifs comme sur la population pour une certaine qualité de résilience.
28 sapeurs-pompiers de métropole sont arrivés ces derniers jours sur le territoire. Ils sont répartis dans différentes unités pour former des équipes mixtes avec des soldats du feu calédoniens.
Visite sur le terrain également ce matin pour Christopher Gégès, le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie. S'est rendu sur le site de la société Lefroy à Montravel, Léo Fichou.
Et on se souvient de ces images dramatiques dans la nuit du 13 au 14 mai dernier. Le site de la société Lefroy en proie aux flammes. Depuis, plusieurs incendies ont totalement détruit ou presque les bâtiments et les outils de travail du site étendu sur 1,6 hectare à Montravel. Ce matin, Christopher Gégès, membre du gouvernement, notamment en charge de l'économie, a choisi de visiter ce qui reste de l'usine Lefroy pour sa première sortie officielle. Il en a profité pour annoncer ce que le gouvernement allait mettre en place pour soutenir les sociétés calédoniennes touchées ces derniers mois par les exactions.
Pour montrer que le gouvernement est aux côtés de ceux qui ont tout perdu le 13 mai. Enfin, on a un véritable devoir moral vis-à-vis de ceux qui ont subi ces exactions et qui aujourd'hui ont de nouveau confiance dans la Nouvelle-Calédonie pour réinvestir. Et donc, on a le devoir d'être à leur côté. Et la première chose, c'est d'être sur site avec eux pour voir ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà leur simplifier la vie. Simplifier la vie, c'est mettre en place un guichet unique où il y a une porte d'entrée avec des référents qui seraient désignés dans l'ensemble des administrations. Donc je ferai le tour à la fois de la province, des mairies, du gouvernement pour ce qui me concerne et de l'État ainsi que des assurances et des banques pour qu'on puisse avoir des référents et qu'une porte d'entrée unique qui permette de faciliter les démarches administratives. Mais faciliter les démarches administratives, c'est aussi les réduire. Donc de faire un travail pour réduire toutes les contraintes qui seront liées à la reconstruction, que ce soit de l'ordre économique, de l'emploi ou environnemental. Et c'est enfin d'aller chercher des aides à leur côté, auprès de l'État, auprès de fonds européens, auprès d'autres organismes, pour qu'ils puissent avoir des aides importantes sur la reconstruction.
Un site qui est en voie de sécurisation avant des travaux de déconstruction. Une déconstruction qui se fait en plusieurs phases. Les détails de Nicolas Troboas, directeur général de la société Lefroy.
Il y a trois phases de démolition. Là, on vous montre la première qui correspondait à la mise en sécurité du site avant la saison cyclonique. La deuxième phase, ça va être Ground Zero, comme on dit. Donc ça va être la mise à nu de la dalle.
D'accord.
Et la troisième phase, ce sera en fonction de l'usage futur que décidera Madame le maire. Il y aura un traitement de dépollution qui devra être proportionnel aux ambitions du site futur. Alors aujourd'hui, on envisage de reconstruire, en tant qu'entreprise emblématique de Nouvelle-Calédonie, sur l'emplacement géographique, c'est à définir dans le temps.
Malgré les freins rencontrés par la société Lefroy, Nicolas Troboas espère reconstruire au plus vite, d'ici 3 à 4 ans, pour un coût total estimé à près de 15 milliards de francs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier sur laquelle les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés sont très partagés. 50% d'entre eux pensent en effet qu'une majorité stable va se dégager au gouvernement après l'attribution des secteurs. Ils sont 50% à penser que ce ne sera pas le cas. Voici notre question du jour. Alors qu'il manque en Calédonie de très nombreux professionnels de santé, pensez-vous qu'il serait judicieux d'étendre à l'ensemble des soignants et non aux seuls médecins un abattement fiscal pour les professionnels qui s'engagent à exercer 5 ans sur le territoire? Si vous pensez que cela pourrait être judicieux, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. L'actualité politique et le FLNKS prépare son 44e congrès. Il se tiendra le week-end prochain à Saint-Louis au Mont-d'Or avec un ordre du jour chargé, Nicolas Legrand.
Oui, il s'agit d'un congrès ordinaire, mais qui se tiendra dans un format entre guillemets extraordinaire, puisqu'il fait suite au congrès de Bakou qui avait vu l'entrée des mouvances nationalistes au sein du front. Et on sait aussi que le PALIKA et l'UPM qui ont été invités se réuniront pour l'un en Assemblée Générale à Wailou et pour l'autre en comité central à Dimbéa samedi, ce qui veut dire que les deux partis historiques ne devraient pas participer à ce congrès du FLNKS. Écoutez Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'Union Calédonienne qui anime en ce moment le bureau politique.
À l'ordre du jour, il y aura bien sûr le bilan depuis le dernier congrès de Bakou, bilan de la mise en œuvre des motions, la partie des discussions, négociations sur l'avenir du pays, où il faudra que le FLNKS définisse le cadre du contenu des négociations, l'équipe qui va aller porter ça dans le cadre des négociations et toute l'organisation du FLNKS pour la séquence, que ce soit au niveau de l'équipe discussion, au niveau de l'équipe technique, de la mobilisation, du bureau politique, des relations extérieures. On a dit qu'on était en phase préparatoire depuis les congrès respectifs des groupes de pression. Sur la suite de ce congrès, on sera en phase de discussion, de négociation, qui devra aboutir sur un accord politique. Nous donnons une date fixe d'indépendance.
Le congrès devra donc définir qui discutera de l'avenir, sous quel format et sous quel calendrier. Il sera aussi question des cadres de la CCAT qui ont été placés en détention provisoire en métropole, dont Christian Théin, élu depuis président du FLNKS. Le front qui devra aussi travailler sur sa charte qui date de 1984 et qui ne prévoit d'ailleurs pas de président à sa tête. Ce congrès sera aussi suivi par des partis indépendantistes français et hollandais qui sont réunis depuis ce matin à Nouméa. Des représentants de Corse, de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie française ou encore de Nouvelle-Calédonie participent au congrès des dernières colonies françaises. Il s'agit d'une réunion qui fait suite à la création du Front international de libération des colonies françaises, qui avait vu le jour sous l'impulsion de l'Azerbaïdjan en juillet dernier. On retrouve Dominique Fauchy.
Le FLNKS est membre du Front international de décolonisation qui réunit les partis politiques des différents territoires et départements d'outre-mer qui veulent être indépendants. Donc ils sont aujourd'hui sur le territoire. Ils seront là pour le premier congrès, le congrès fondateur du Front international des mouvements de libération et de décolonisation. Donc il y a des représentants de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Corse, de Tahiti et le FLNKS est membre. Donc le congrès fondateur se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ils seront présents pour le congrès.
C'est un format qui avait été initié en Azerbaïdjan ?
C'est un format qui a été initié sous l'égide de la présidence du mouvement des non-alignés, qui était porté par, à ce moment-là, par l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan n'est plus... Il a accompagné la démarche et en fait, le pays n'est plus dans l'organisation. Maintenant, c'est les mouvements de libération des différents territoires qui se sont organisés eux-mêmes.
Et après une coutume ce matin au Sénat coutumier, la réunion de ce congrès des partis indépendantistes français et hollandais débutera cet après-midi au siège de l'Union calédonienne à Magenta. Je rappelle que le congrès du FLNKS débutera, lui, réellement samedi matin à la maison commune des Quatre Cocotiers à Saint-Louis.
11h41, une première pause dans ce journal avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne ? Gino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta, en face de l'aérodrome. Sur place ou à livrer avec Midit, profitez d'une pizza généreuse et savoureuse avec des ingrédients frais. Gino Pizza, l'allié de vos moments d'évasion, téléphone 31 91 92.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
C'est une première étape pour le retour des touristes sur le territoire. Le consulat australien a abaissé d'un cran le niveau d'alerte de conseil aux voyageurs sur les risques encourus en venant en Nouvelle-Calédonie. La destination était déconseillée au plus haut niveau depuis les émeutes de mai 2024. L'alerte est désormais au niveau dit « médium ». C'est une bonne nouvelle et c'est le fruit d'un long travail de communication, explique Julie Laronde, la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
On a engagé un travail de rassurance depuis le mois d'octobre et novembre, parce qu'il faut reconstruire l'attractivité et l'image de la destination, forcément à l'étranger, puisque l'image a été un petit peu détériorée, avec des vidéos de témoignages de prestataires locaux, de touristes aussi qui sont revenus fin d'année dernière. On a également lancé une campagne de communication d'envergure pour dire, voilà, sans nier ce qui s'est passé, hein, en disant, voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est un nouveau départ pour le tourisme, etc. Et donc, on veut reconstruire cette attractivité. On a également lancé une campagne de vente en fin d'année dernière pour stimuler les réservations. Alors, c'est pas encore satisfaisant, mais normalement, cette année, on devrait ponctuer l'année avec des campagnes de vente régulières pour booster ça. Donc ça va être un travail de longue haleine, en tout cas tout le premier semestre, pour voir progressivement remonter les flux touristiques internationaux.
En 2023, les visiteurs internationaux représentaient environ 50 milliards de francs de recettes dans l'économie calédonienne, un chiffre évidemment qui a drastiquement baissé depuis les émeutes. Parlons maintenant de la préparation de la rentrée scolaire avec d'abord une aide bienvenue. Malgré les difficultés financières de la commune, le Mondeur maintient la distribution de ses bons de rentrée scolaire aux familles les plus démunies, Léana.
Tous les ans, le CCAS de la ville du Mondeur se montre solidaire des familles les plus précaires en leur distribuant directement des fournitures scolaires ou bien des bons d'achat. Cette année, ce sont 31 familles, dont 60 enfants, qui se sont vus remettre des bons. Un premier servira à l'achat de chaussures et de vêtements. Le second sera pour les fournitures scolaire. Vanessa Chalère, directrice adjointe du CCAS du Mont d'Or, souligne une réelle volonté de la mairie de maintenir cette opération pour 2025.
L'opération rentrée scolaire pour le CCAS du Mont d'Or, elle existe depuis plusieurs années. On a sacrifié, entre guillemets, beaucoup d'actions l'année dernière, compte tenu des restrictions budgétaires. Et celle-là, on a vraiment souhaité la maintenir, en sachant qu'on est quand même sur un format plus léger, puisqu'on ne touche que les collèges-lycées, et on n'a que 60 enfants qui sont concernés. Donc, ce qui est quand même moindre que ce qu'on a pu faire les années précédentes. Mais on a vraiment voulu maintenir ça, parce que y a quand même des besoins, c'est quand même des frais en moins pour les familles, ça soulage bien les familles, et ça permet quand même aux enfants de rentrer au sein de leur établissement scolaire avec un minimum de matériel, un minimum d'équipement.
Deux distributions ont été effectuées, la première au Vallon d'Or et la seconde ce matin où les habitants avaient rendez-vous à Boulary. Un geste solidaire apprécié de ces familles très souvent dans le besoin.
Bah, mon fils rentre en quatrième cette année, donc plus de dépenses, et donc plus de besoins. Et d'un côté, ça nous permet d'avoir une petite réduction sur les dépenses qu'on a prévues en début d'année.
Moi, mes deux enfants, 12 ans et 16 ans, lycée et collège. Et ça va faire du bien parce que moi, dans mon travail, j'ai perdu... On a diminué les heures. Donc les aidants seront les bienvenus. D'habitude, je ne viens pas. Hein. Je me dis qu'il y en a beaucoup qui en ont plus besoin que moi. Mais là, je ne vous cache pas que oui, là, j'ai besoin.
En parallèle de cette distribution effectuée en partenariat avec le Kiwanis Club, les bénéficiaires du dispositif ont participé à des ateliers de sensibilisation sur la sécurité numérique, ainsi qu'à l'accompagnement aux démarches à effectuer sur Internet.
Et pendant ce temps, l'UNC organise des journées d'intégration sur le campus universitaire. Jusqu'à la semaine prochaine, près de 700 étudiants peuvent rencontrer les différents partenaires de la maison de l'étudiant qui sont là pour faciliter les démarches administratives. Côté logement, la priorité est donnée aux étudiants les plus méritants de l'an dernier. Yannick Lérand est la directrice de la maison de l'étudiant.
Je leur ai également rappelé tous leurs droits. La maison de l'étudiant offre à tous ses étudiants un grand nombre de services, de dispositifs qui sont pour eux, qui vont du logement à la restauration, en passant par l'action sociale, la sécurité, l'animation. Mais je leur ai également rappelé qu'ils ont aussi des devoirs, notamment un comportement que je souhaite exemplaire. Alors s'ils sont là, c'est qu'ils se sont bien comportés l'an dernier parce qu'on a effectivement une sélection. On ne garde pas sa chambre si on n'a pas réussi ses études, si on s'est mal comporté, si on n'a pas payé son loyer. Donc il y a un examen des locataires et comme le disait le responsable de la SIC, sur 540 étudiants, il y en a 280 qui ont été réadmis. Ça veut dire que tout le monde n'a pas été réadmis. Et sur ces 280, ça veut dire qu'ils ont joué le jeu et a priori, ça devrait bien se passer cette année.
Et loger sur le campus est évidemment un atout, expliquent ces étudiants qui vont donc retrouver leur logement.
J'ai travaillé l'an dernier, j'ai eu mon année. Mon logement est impeccable comme à l'entrée. J'ai pris soin de tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai commis aucune infraction vis-à-vis du règlement intérieur. Vis-à-vis de l'alcool, la drogue, etc. Parce que c'est les choses les plus récurrentes qui se passent sur le campus. Ça me permet de me réveiller beaucoup plus tard le matin. Si j'ai cours à 7h30, je me réveille à 7h, donc... C'est bien mieux pour moi et ça m'évite de faire la route et ça évite aussi mes parents de descendre. J'habite à Latamoa.
J'habite à Cuccio, mais c'est sûr que c'est mieux d'avoir une chambre. Ça évite de repartir à la maison et puis même quand t'es toute seule et tout pour réviser, c'est plus agréable. Il y a tout, il y a des salles d'études. Dans la chambre, on a Internet.
Ben, c'est surtout avec l'assiduité due au travail à l'école l'année précédente, le bon comportement au sein du campus et le travail fourni à l'école. C'est ce qui a fait que j'ai été prioritaire en réadmission cette année.
Ça facilite l'école, surtout. Le transport à l'école et le travail autonome.
Et pour cette rentrée universitaire 2025, il y a eu 832 demandes de logement depuis la mi-décembre 2024. Une centaine sont encore en attente. L'actualité dans la région et le Vanuatu qui s'enfonce dans le marasme politique. Le résultat des élections générales qui ont eu lieu la semaine dernière sont toujours officieux, mais ils montrent que la classe politique est morcelée et qu'il faudra encore faire jouer les alliances pour trouver une majorité. Jean-Pierre Zajac.
Des amendements constitutionnels votés l'an passé étaient censés apporter une certaine stabilité au sein de la nouvelle Assemblée et du gouvernement qui en émanerait. Au vu des résultats officieux du scrutin et des rumeurs qui circulent à Port-Vila le concernant, il est clair qu'aucune majorité ne s'en est dégagée, dans la mesure où la formation politique ayant jusqu'à présent remporté le plus grand nombre de sièges ne pourrait prétendre en disposer en fait que d'une dizaine, alors que 26 au moins sont requis pour asseoir une majorité stable au Parlement. La pléthore de petits partis et de candidats dits indépendants ou sans étiquette est la cause de ce marasme, lequel, en dépit des amendements constitutionnels votés l'an passé, vient à nouveau de démontrer que le Vanuatu demeure sans orientation politique précise et reste donc ingouvernable. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il sera 11h50 dans quelques secondes. Une nouvelle pause dans ce journal. On voit ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde. Et notamment des propositions qui agitent en ce moment le gouvernement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Qui habille prépare déjà la rentrée en mode pouvoir d'achat. Des t-shirts unis en 6 coloris à seulement 390 francs. Des shorts hyper hyper confortable à 690 francs seulement. Stylé! C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. N'attendez plus, rendez-vous en magasin ou commandez sur kiabi.nc.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on commence par l'actualité en métropole. Le gouvernement cherche par tous les moyens à faire des économies et à générer de nouvelles recettes. La nouvelle ministre du Travail a évoqué ces derniers jours l'idée de taxer les retraités les plus aisés. D'autres avancent l'idée de travailler 7 heures de plus par an gratuitement. Autant de propositions sur lesquelles le gouvernement doit rapidement clarifier ses positions. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Face à la levée de boucliers des oppositions, mais aussi du camp présidentiel, le gouvernement veut rassurer. Pas question pour l'instant de taxer les retraités les plus riches. La porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, rappelle que la position de la ministre du Travail est strictement personnelle.
C'est un sujet qui est ouvert devant nous, mais ce n'est pas la position du gouvernement à ce stade.
Sur la question des 7 heures supplémentaires de travail gratuites par an, le gouvernement ne tranche pas. La porte-parole s'en remet à la décision de François Bayrou et tente surtout de minimiser des dissonances entre ministres.
Au mot cacophonie, je préfère polyphonie. Le Premier ministre s'appuie sur cette expérience, s'appuie sur les dispositions que les uns et les autres peuvent apporter. À la fin, c'est le Premier ministre et le Parlement qui trancheront.
Toujours est-il que la partition ne semble pas achevée puisqu'Éric Lombard confie ce soir dans Les Échos que si le gouvernement n'ajoutera pas de nouveaux impôts sur les ménages, cette piste des 7 heures de travail gratuit et supplémentaire par an est bel et bien lancée avec un message clair, il faut travailler plus.
La porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, qui a confirmé la réactivation du comité interministériel de lutte contre l'immigration. Il existait déjà sous Nicolas Sarkozy, mais avait été abandonné. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a souhaité le réactiver, a expliqué Sophie Prima.
Aujourd'hui, la volonté du ministre de l'Intérieur était de remettre ce comité interministériel pour gérer les flux de l'immigration, avoir des orientations interministérielles cohérentes et précises.
Et ce comité doit aussi permettre d'apporter des réponses rapides et concrètes sur des sujets comme l'aide médicale d'État, les laissez-passer consulaires ou la protection sociale des étrangers, alors que le Premier ministre a fermé la porte à une nouvelle loi immigration. Le chancelier allemand Olaf Scholz était à Paris la nuit dernière pour nous. Il a vivement condamné l'attaque au couteau qui a fait 2 morts dans un parc près de Francfort. Un réfugié afghan de 28 ans a poignardé plusieurs adultes et des enfants. L'une des victimes est d'ailleurs un enfant de 2 ans. L'agresseur a été interpellé et présente des troubles psychiatriques. Mais la raison de la présence d'Olaf Scholz à Paris était tout autre. Il s'agissait d'afficher l'unité du couple franco-allemand 62 ans après la signature du traité de l'Élysée. Mais aussi de faire le point sur les défis posés par le retour de Donald Trump au pouvoir aux USA. Geoffrey Branger pour Europe 1.
Côte à côte, face caméra, Emmanuel Macron et Olaf Scholz multiplient les amabilités.
Cher Olaf, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir à l'Élysée le chancelier Scholz en ce jour si particulier.
Monsieur le Président, cher Emmanuel, je me réjouis beaucoup de ton invitation de venir à Paris aujourd'hui.
Mais le 62e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée est un prétexte. Les deux hommes ne tournent pas autour du pot.
La seule réponse au temps dans lequel nous entrons, c'est plus d'unité, plus d'ambition et d'audace et plus d'indépendance des Européens. Je suis très heureux en tout cas, cher Olaf.
Le chancelier allemand approuve et se montre bien plus critique vis-à-vis de Donald Trump.
Les temps que nous vivants sont difficiles. Cette semaine, nous sommes en face d'une nouvelle administration américaine et le président Trump sera un défi.
Ou comment Paris et Berlin haussent le ton, espérant embarquer la plupart des membres de l'Union européenne, tandis que l'italienne Giorgia Meloni affiche sa proximité avec la Maison-Blanche.
Voilà le reportage de Jacques Soret pour Europe 1. Et puis Félix Bingui est arrivé en France. C'est le chef d'un groupe de narcotrafiquants très implanté à Marseille, le clan Yoda. Il avait été arrêté au Maroc en février 2024 et son extradition a pris plus de 10 mois. Mais cela va permettre de le juger en France. Et en attendant, Félix Bingui devrait être placé à Fleury-Mérogis. Ce n'est pas un hasard, explique Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Choix stratégique, d'abord pour des questions de logistique, notamment pour les allers-retours, pour aller voir le juge d'instruction, puisqu'on est qu'à une trentaine de kilomètres de Paris. Ensuite, parce que se trouve là-bas un des plus grands quartiers d'isolement d'Europe, très sécurisé. Salah Abdeslam y avait par exemple été incarcéré pendant plusieurs années avant son transfèrement vers la prison de Vendin-le-Vieil, après avoir rencontré le juge d'instruction. d'instruction, puis le juge des libertés et de la détention. C'est donc là que Félix Bangui devrait être placé en détention provisoire, lui qui était visé par un mandat d'arrêt depuis l'été 2023. Parmi les chefs d'inculpation, l'importation de stupéfiants en bande organisée, l'association de malfaiteurs et le blanchiment et la non-justification de ressources. Reste désormais à savoir pour combien de temps le chef du clan Yoda doit y rester. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaite regrouper les 100 plus gros narcotrafiquants d'ici cet été.
Aux USA, Donald Trump continue d'imprimer sa marque et son rythme pour le début de son mandat. Après avoir déjà pris plusieurs décrets pour lutter contre l'immigration illégale, il vient d'impulser un vaste programme pour développer l'intelligence artificielle. C'est le projet Stargate pour lequel il a mis 500 milliards de dollars sur la table. Sam Altman, le patron de la société qui a développé ChatGPT, était aux côtés du président américain lors de cette annonce.
Je pense que cela va être le projet le plus important de notre époque. Créer des centaines de milliers d'emplois, créer une nouvelle industrie basée ici, et nous ne pourrions pas y arriver sans vous, monsieur le président. Le fait de le faire aux États-Unis est vraiment merveilleux. Merci beaucoup.
Voilà, une initiative qui a fait grincer des dents. Elon Musk, les gens de la tech qui entourent Donald Trump, ont donc commencé à être mis en concurrence. Il est 11h56. On va terminer ce journal dans un instant par le sport, avant de retrouver ensuite les jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicape et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le football avec la suite et la fin de la 7e journée de phase de Ligue des Champions, Léo Fichou.
Oui, c'était la phase de Ligue, la première phase de cette nouvelle Ligue des Champions. Deux clubs français jouaient ce matin, Brest et le PSG. Les Brestois, déjà qualifiés à minima pour les barrages, affrontaient le Shakhtar Donetsk. Les Bretons se sont inclinés 2-0. De son côté, le Paris Saint-Germain recevait Manchester City et n'avait plus le droit à l'erreur. Mené 2-0 à la 53e minute, les joueurs de la capitale se sont finalement imposés 4-2 et reviennent dans les places qualificatives pour les barrages avant la dernière journée de la phase de Ligue de cette Ligue des Champions. Pour rappel, hier, Monaco a dominé Aston Villa 1-0 et Lille s'est incliné 2-1 face à Liverpool.
Allez, du tennis avec la suite de l'Open d'Australie, du tennis au féminin, puisqu'on parle des demi-finales du tableau dames qui auront lieu ce soir.
Les favorites sont au rendez-vous du dernier carré de ce premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La numéro 1 mondiale et tenante du titre, Arina Sabalenka, jouera dès 19h30 contre l'Espagnole Paola Badosa, deux des meilleurs amis du circuit WTA qui vont donc s'affronter pour une place en finale. La rencontre sera suivie de la seconde demi entre Iga Swiatek, tête de série numéro 2 du tournoi, et l'américaine Madison Keys. Chez les hommes, le numéro 1 mondial n'a pas tremblé hier soir en quart de finale. Jannik Sinner n'a eu besoin que d'1h50 pour battre l'Australien Alex de Minaur. Il s'est donc hissé en demi-finale et affrontera Ben Shelton demain, l'américain vainqueur de Lorenzo Sonego en 4-7 hier après-midi. Dans l'autre demi-finale du tableau masculin, Novak Djokovic, vainqueur à 10 reprises de l'Open d'Australie, sera opposée à l'Allemand Alexander Zverev.
En bref, on suivra en cyclisme la troisième étape cet après-midi du Tour Down Under en Australie, étape longue de 147 500 km avec un profil montagneux marqué par 3 ascensions. Sam Westford de l'équipe Bora Red Bull est en tête après avoir remporté les 2 premières étapes. Et puis du handball avec la suite des championnats du monde. Demain, deuxième journée du tour principal pour l'équipe de France qui affrontera à 4 heures pour nous les Pays-Bas. Les Bleus sont évidemment pour l'instant en tête de leur groupe.